l'invitation m'obligeait aussi, contre mon gré et contre mon cœur, à tenir des propos, à accomplir certains actes dont j'ai souffert plus que vous. Mais devant les exigences de l'ennemi, je n'ai rien abandonné d'essentiel à l'existence de la patrie.
Silence ! Silence !
Pendant que le général de Gaulle part de nos frontières pour suivre la lutte, j'ai préparé les voies à la libération, conservant une France douloureuse, mais vivante. À quoi en effet eût-il servi de libérer des ruines et des cimetières ?
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qui nous parle ? Cette voix d'outre-tombe, vous l'avez certainement reconnue, c'est le maréchal Pétain, lors de la première audience de son procès devant la Haute Cour de Justice le 23 juillet 1945. Mais en quoi ces jérémiades de vieillards nous concernent-elles aujourd'hui ? Eh bien, figurez-vous qu'elles reviennent en force dans le débat public, et notamment le vieil argument de l'épée et du bouclier que l'on croyait mort et enterré avec les derniers nostalgiques de Vichy, mais qu'un candidat à l'élection présidentielle remet au goût du jour. Cela me rappelle une bande dessinée formidable, La Ballade Nationale de Sylvain Venère et Étienne Davodeau. C'est un road movie où les héros de l'histoire de France trimballent dans leur coffre le cercueil de Pétain en ne sachant pas trop comment s'en débarrasser. Soudain, on entend le maréchal qui proteste « Allons bon, voilà autre chose, un mort qui parle ». C'est Michelet, l'historien de la bande, qui le remet à sa place. Nous sommes au 21e siècle, Pétain. L'ambiance en France est, disons, étrange. On dit beaucoup de bêtises sur l'histoire de France. C'est vrai qu'on en dit quelques-unes. Alors comment faire quand on est historien ? Eh bien, on ouvre le capot et on met les mains dans le cambouis. On raconte comment les choses se sont passées, mais aussi comment l'on fait pour construire une connaissance historique sur le passé. Voilà nos deux responsabilités. Non, en fait, il y en a une troisième, rendre tout cela intéressant, même quand le sujet est pénible. Nous recevons aujourd'hui Laurent Joly pour son livre cinglant et nécessaire, La falsification de l'histoire, bientôt rejoint par nos deux sociétaires du jour, Manon Pignot et Pape Ndiaye. Avec eux, je n'en doute pas, ça va être intéressant. Laurent Joly, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche au CNRS et depuis 20 ans, plus de 20 ans, vous consacrez vos recherches à l'histoire de l'antisémitisme et au régime de Vichy. Vous avez publié de nombreux livres savants, documentés, notamment à partir de votre grande enquête sur les archives du commissariat général aux questions juives, siège de ce que vous appelez l'antisémitisme de bureau. Mais aujourd'hui, c'est un révisionnisme de plateau télé auquel nous sommes confrontés. Il y a des vieux arguments pétainistes qui n'avaient plus cours depuis longtemps, sinon chez quelques nostalgiques de Vichy, qui ressurgissent dans l'espace public avec virulence. Et pour les contrer, vous publiez chez Grasset un livre incisif, La falsification de l'histoire, sous-titre Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. J'imagine que c'est un livre que vous auriez aimé ne pas avoir à écrire.
Disons que c'est un livre que j'avais pas forcément en tête de faire, c'est certain. En revanche, ce que j'avais l'idée de faire depuis pas mal d'années, c'était de raconter l'histoire de l'histoire. De raconter comment on a écrit l'histoire de Vichy et les Juifs de 1945 à nos jours. Parce qu'effectivement, depuis que le phénomène Zemmour a surgi, on l'a vu invoquer comme ça des noms, des références, nous parler de Doxa Paxton, nous parler de Robert Aron, de sortir des noms comme ça. Et donc, ça fait un moment que j'avais envie de raconter l'histoire de l'histoire et j'avais depuis longtemps commencé à faire des recherches dans les archives d'historiens, Poliakov, Joseph Billig,
etc. On va parler de tout ça. Voilà. Mais là, il y avait quand même une urgence.
Et là, il y avait une urgence, bien sûr.
Et justement, cette urgence, pour la désigner, je propose simplement de se souvenir de ce que Éric Zemmour, puisque c'est de lui dont il s'agit, a dit lorsque c'était le 16 décembre, grand invité de la matinale sur cette antenne, en tant que candidat à l'élection présidentielle. Alors il disait ce qu'il dit tout le temps, c'est l'histoire, c'est la guerre. Nicolas Demorand lui disait, mais enfin quand même, des fois, il y a bien des consensus d'historiens. Ce à quoi il a répondu, et je le cite, non, il n'y a pas de consensus d'historiens, il y a ce qui s'impose par la propagande dans les universités. Écoutez, je pense, Laurent Joly, que c'est Évidemment, ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est comment se construit un consensus historique et par quoi il peut être éventuellement fragilisé. Il y a des consensus d'historiens.
Oui, il y a des consensus, il y a surtout des cadres qui se construisent avec le temps et à l'intérieur desquels il y a une discussion scientifique possible. Si vous sortez de ces cadres, si vous inventez des choses qui n'existent pas, vous n'êtes pas dans un cheminement et un processus de construction d'un savoir scientifique. Donc là, Zemmour, c'est typique de sa manière de tout relativiser, de tout rendre confus. Si tout se vaut, voilà, c'est celui qui est le plus fort qui gagne. Enfin, vous voyez, c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Or, le cœur de mon livre, c'est justement de montrer qu'il y a un savoir qui s'est édifié petit à petit. On a découvert les archives de très tôt, on a eu accès aux archives de la persécution des Juifs sous l'occupation et sous le régime de Vichy. Ce sont les archives du Commissariat général aux questions juives qui ont été accessibles assez vite, puisque dès 1946, ce qui s'appelait le Centre de documentation juive contemporaine, qui est un centre de recherche, de communautaire,
qui avait été fondé dans la clandestinité,
et qui a essayé, de jeter les bases de cette de la recherche sur de documenter ce qui était arrivé aux Juifs pendant la guerre. Mais ils ont eu accès à ces archives. Et donc, on a des gens qui se sont formés au métier d'historien et qui ont commencé à produire des livres. Donc, vous avez comme ça, en une dizaine d'années, une dizaine de livres qui sont faits.
Alors, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est une aventure de savoir assez passionnante que cet établissement des faits par les archives. J'ai appris en vous lisant, il y a Léon Poliakov, c'est bien connu, et puis il y a son assistant, Billig, qui est de nationalité russe, juive. Sa mère est morte, déportée à Auschwitz, qui est au procès de Nuremberg. Et lui, c'est un personnage extraordinaire, justement, dans cette histoire.
C'est un personnage extraordinaire. C'est quelqu'un qui est une sorte de génie, qui s'intéresse un peu à tout, qui a été philosophe, mathématicien, qui parle 5 langues, qui est typique de ces réfugiés de luxe, quelqu'un qui est qui a quitté la Russie, qui est allé à Berlin, qui a quitté Berlin après 33. Enfin, vous voyez cette évolution. Et donc il est là, il revient en France, il a été prisonnier de guerre, il veut se renseigner sur le sort de sa mère et il va au CDJC, au Centre de documentation juive contemporaine. Et là, comme on voit qu'il est intelligent, qu'il s'intéresse aux archives et puis surtout qu'il a pas de travail, il se forme au métier. Il fait partie de cette équipe qui va dépouiller les archives du Commissariat général aux questions juives. Ils ont l'équivalent de ce qui va être en gros les 1000 premiers cartons. Vous voyez, de ce qu'on appelle aujourd'hui la série AJ38 aux Archives Nationales. Donc, vous imaginez 1000 cartons d'archives.
Vous avez travaillé là-dessus, d'ailleurs, sur ces cartons.
Et moi, j'ai retravaillé après, dans les années 90-2000.
On peut commencer par dire ça tranquillement. C'est-à-dire que l'histoire, c'est ça.
L'histoire, c'est ça. Donc, ils ont ces archives-là. Ils ont aussi des archives de la Gestapo. Et donc, ça sert à nourrir des premiers livres qui permettent de documenter ce qu'on appelle à l'époque, on parle pas de Shoah, on parle de la condition des Juifs pendant la guerre, la persécution, la destruction, etc. Et c'est sur ces travaux-là que les travaux fondateurs de Paxton, sur lesquels Paxton va s'appuyer 10 ans plus tard.
Mais justement, ce que la fachosphère et Éric Zemmour disent, c'est ils parlent de la doxa Paxton. Et ce que vous montrez, évidemment, c'est un mythe.
C'est un mythe total.
Lui, il travaille, Robert Paxton, il travaille, donc son livre paraît en 1972, 73, il est traduit en France, la France de Vichy, il repose déjà sur tout ce travail préparatoire qui est déjà considérable, toute cette historiographie.
Absolument, il s'appuie énormément sur Joseph Billig, et s'il n'a pas ça, vous savez, à l'époque, on a accès à un certain nombre d'archives, mais on n'a pas accès à toutes les archives en 72-73. Et donc, l'un des dossiers qui est le mieux documenté, c'est celui de la persécution des Juifs, justement. Et c'est pour ça que Paxton va utiliser cet exemple-là pour essayer, à la fin, il est le premier à le faire, à essayer de juger le bilan de Vichy. Parce qu'en fait, il y avait une idée reçue, à l'époque, qui était de dire, en gros, moralement, Vichy, c'est pas défendable. Mais matériellement, ils ont protégé les Français. Voilà, ça, c'est un peu l'idée de Robert Aron. Et Paxton voit bien que ça tient pas, que c'est la justification de Vichy. Donc il dit, est-ce que Vichy a vraiment protégé les Français? Est-ce que Vichy, même si moralement, est-ce que matériellement, concrètement, non. Et il donne l'exemple des Juifs, et il donne l'exemple du STO aussi, qui sont les deux dossiers les mieux documentés.
Et justement, ce qui est intéressant dans ce moment Paxton, qui est un moment, vous le montrez, de récapitulation, c'est qu'il décrit aussi tous les moments où Vichy aurait pu dire non. C'est-à-dire que le principal argument péténiste qui revient aujourd'hui, c'est on n'avait pas le choix. Justement. C'est-à-dire ce que montre Paxton, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on a une collaboration active, c'est ce que veut Laval. Soit on reste dans les conditions de l'armistice, c'est ce que veut Weygand. Et Pétain veut un peu tout ça en même temps. Et c'est ça Vichy.
Absolument. Alors, Paxton n'est pas le premier. Vous avez déjà Henri Michel qui en 66 fait un livre sur 1940, centré sur Montoir, et Bernard Jaeckel qui fait un livre sur la France dans l'Europe nazie. Paxton qui arrive, et que montrent ces trois livres, qui sont des livres fondamentaux et qui, alors là pour le coup, documentés sur des archives allemandes en particulier. C'est que Vichy a cherché la collaboration, a cherché une politique de collaboration, parce que l'idée de Vichy, qu'on peut comprendre et historiciser, c'était, il se disait, l'Allemagne va gagner la guerre. Donc il faut ménager à la France la meilleure place possible dans l'Europe nazie. Donc l'armistice, c'est quelque chose qui est une grosse contrainte, qui pèse. Donc il faut essayer de desserrer les contraintes de l'armistice et donc donner des gages politiques à l'Allemagne. Et c'est ça la politique de collaboration, et c'est ça qui va entraîner tout ce qui va se passer, d'où la livraison proactive, parce qu'on est vraiment en 42, dans des négociations où Vichy est proactif et pas simplement soumis, parce que cette espèce d'idée, on n'avait pas le choix, c'est la convention d'armistice, c'est pas vrai. Rien dans la convention d'armistice, rien dans les règles internationales, n'autorisait l'occupant à exiger la livraison de milliers de femmes, d'enfants. Voilà, c'est justement pour ça qu'ils ont dû négocier avec Vichy.
Et ce que vous montrez, Laurent Joly, c'est donc la doxa Paxton, comme l'appelle Éric Zemmour, en fait, justement, c'est ce consensus historien patiemment construit par un travail sur les archives, patiemment construit et constamment discuté. Parce que, évidemment, on est dans un travail historique. Par exemple, dès 1983, dans Vichy-Auschwitz, Serge Klarsfeld reproche à Paxton de minimiser le fait que ce qui a entravé la solution finale en France, c'est l'émotion de la population française après les rafles de l'été 42, suite notamment aux protestations de quelques évêques français.
Oui, vous savez, là, on est au cœur de l'ignorance, finalement. Zemmour ne connaît pas ce dont il parle. Il ne connaît pas les débats entre chercheurs, entre spécialistes. En vérité, il y a des guerres entre historiens très, très durs, mais qui sont à l'intérieur de ce cadre, de ce que vous appelez ce consensus, oui. Des controverses. Mais quand Klarsfeld polémique avec Paxton Marus, au début des années 80, vous lisez l'introduction de Vichy-Auschwitz, c'est quand même assez, assez rude, parce qu'effectivement, c'est quand même un point d'interprétation très, très difficile et très complexe. Pourquoi il y a eu à un moment donné un ralentissement? Alors Paxton va vous dire il y a un ralentissement de la déportation et de la collaboration parce que les Allemands ils n'ont pas assez de trains et que après tout la France c'est pas un territoire fondamental. Et Klarsfeld dit non, ce qui est vraiment ce qui a fait obliger les Allemands de reculer, c'est l'opinion publique. Donc, vous voyez, ça, c'est pas un débat mineur. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres sur les origines du statut des Juifs. Moi-même, j'ai eu un débat assez vif à l'américaine avec Paxton sur les origines du statut des Juifs. Il y en a sur Laval. Est-ce que c'est Laval qui a décidé? Est-ce que c'est Bousquet, chef de la police, qui a pris des initiatives? Vous voyez, il y a plein.
Tout ça, on peut discuter.
Il y a plein de, oui. Mais quand vous sortez du cadre, vous êtes pas, c'est, parce que le savoir scientifique, c'est quelque chose de cumulatif. Qui est nuancé, qui est affiné, et il y a des débats qui sont à l'intérieur de... Si vous dites que ce qui était en fait une politique de collaboration et de complicité est en fait une politique de moindre mal, vous reprenez les justifications de Vichy, vous n'êtes pas du tout dans les véritables explications de ce qui s'est passé.
À ma connaissance, Éric Zemmour n'a été confronté qu'une fois à un historien de métier à la télévision, c'était sur BFM en 2018, face à Patrick Veil, et face à son contradicteur, finalement, il jetait les armes, il assénait, je reste libre de mes interprétations. Mais justement, vous le montrez, Laurent Joly, un consensus historien ne se contente pas d'établir des faits, mais des interprétations. Et toutes ne sont pas valables, toutes ne sont pas égales, certaines sont erronées et irrecevables, car mal fondées, écrivez-vous.
Oui, absolument. Quand vous proposez une interprétation qui se fonde pas sur les archives, qui se fonde pas sur la lecture de la littérature scientifique existante, vous êtes hors jeu.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Au pied du sapin, on a trouvé une nouvelle sociétaire, Manon Pignot. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez tout à l'heure. C'est un cadeau pour vous, cette première émission sur Zemmour et Vichy?
Alors, Zemmour, c'est pas un cadeau.
Non.
Mais je vous remercie de m'avoir convié pour cette première, pour parler du livre de Laurent Joly, qui est vraiment un livre très important.
Eh bien, on en parle tout à l'heure. Put on your robe. Allez, on parle un peu d'Éric Zemmour dans Histoire 2, c'est la première fois depuis le début de cette émission, c'est peut-être la dernière, et c'est pour évoquer un seul sujet, le seul dont Zemmour est le nom, la falsification de l'histoire par l'extrême droite. La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs, tel est le titre du livre de Laurent Joly, nous en parlons, en compagnie de Pape Ndiaye et de Manon Pignot, notre nouvelle sociétaire, maîtresse de conférences habilitée à l'université de Picardie, spécialiste de la Grande Guerre et de l'enfance. Bonjour Manon.
Bonjour.
Donc voilà, pour vous c'est important de commencer comme ça.
Bah, je suis très contente d'avoir l'occasion de poser directement cette question à Laurent Joly parce que ça me permet de cette falsification de l'histoire que vous évoquez, qui est manifeste pour moi à la fois comme historienne et comme enseignante. C'est une question à laquelle je suis confrontée avec mes étudiants quand je fais un cours sur les enfants dans la société française à l'époque contemporaine. Et donc je voulais revenir sur cette question des enfants, c'est-à-dire sur la question de la responsabilité première de Vichy dans le choix d'arrêter et donc de contribuer à la déportation de plusieurs milliers d'enfants juifs de moins de 16 ans. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'histoire ce sont des faits établis par des archives, mais ce sont aussi des expériences, des voix, des visages. Et en vous lisant, Laurent Joly, j'étais très émue d'ailleurs de retrouver les visages notamment de Jenny et Maurice Plocky, que vous citez. Maurice Plocky, il est plus connu sans doute des éditeurs sous son nom de plume qui est Maurice Rachfus, et qui est mort l'année dernière. Et Jenny Plocky et Maurice Plocky, Jenny Plocky en particulier, elle est évoquée dans un très beau livre de Geneviève Brisac que vous citez, qui s'intitule « Vie de ma voisine », qui est d'ailleurs, c'est un hasard, publié également chez Grasset. Et je voulais juste citer ce petit passage. Les parents de Jenny et Maurice sont des juifs polonais, communistes, réfugiés en France dans les années 20. Leurs enfants sont français, parce qu'ils sont nés en France. Jenny est née en 1925, Maurice en 1928. Et le 16 juillet 1942, ils habitent à Vincennes. Et ils sont donc directement concernés par la rafle du Veldiv. Je cite juste ce petit passage. « Papa dit, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. » Et à cet instant précis, on frappe à la porte. Le flic qui est venu nous arrêter est un ancien voisin nommé Mulot. Il a vécu sur le palier d'en face pendant 3 ans, puis il a déménagé ailleurs. On sait qu'il a fait arrêter un couple d'Allemands anti-nazis qui vivaient dans notre rue. Il fait comme s'il ne nous connaissait pas. Ma mère lui dit « Vous ne prenez pas les enfants quand même ?» Il réplique « Vous êtes sur la liste, il n'y a pas à discuter. » Alors il se trouve que pour Jenny et Maurice, finalement, ils ne seront pas déportés parce que, arrivés au commissariat, les parents ont le choix de laisser repartir les enfants français. Et contrairement à la majorité des parents réunis dans ce commissariat, les parents Plocky décident de laisser leurs enfants de 16 et 14 ans repartir et vont devoir se débrouiller seuls ensuite dans Paris occupé. Mais voilà, je voulais revenir et vous demander peut-être de repréciser ça, cette question de la responsabilité du régime de Vichy.
Alors d'abord, je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup pour cette question parce qu'elle me touche beaucoup, parce que je suis très ami avec Jenny, qui a 97 ans cette année et qui nous écoute. Et donc, Jenny a effectivement pu sortir parce qu'elle n'était pas arrêtable, en fait. Elle avait presque 16 ans et demi et elle était française. Donc, selon les circulaires, elle n'était pas arrêtable. Mais, et c'est pour ça qu'elle a pu prendre son petit frère, ce qui est effectivement quelque chose d'assez rare, voilà, qu'une adolescente ait pu partir avec son petit frère. On est au cœur de ce qui est injustifiable dans la politique de Vichy et de ce qui est le plus choquant et le plus scandaleux dans la manière dont Zemmour traite cette histoire-là en disant c'était les nécessités de la raison d'État, c'était voilà la guerre c'est sale, on fait des choix, on protège les Français, on sacrifie les étrangers. Bon après tout, la rave du Veldiv, ça ressemble à c'est exactement les mêmes procédures que l'expulsion des Juifs étrangers. Enfin, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte sur ce sujet-là, c'est vraiment scandaleux. Donc ce qui se passe, c'est que 1942, Vichy est dans une logique de collaboration, Laval est revenu au pouvoir en avril, il y a une pression allemande qui est forte, et il y a le choix qui a été fait des nazis de d'étendre la solution finale à l'ouest de l'Europe. Donc le chef de la police SS demande à Vichy, on veut 40 000 juifs. Voilà. Mais 40 000 juifs en âge de travailler, c'est ça la demande. La demande nazie, évidemment, je suis pas en train de vous dire que les nazis veulent pas déporter les enfants. Ils veulent déporter les enfants, mais pas tout de suite. Mais enfin, ce qui permettait quand même, là, il y avait une marge pour Vichy. Donc Vichy dit, bon ben, c'est les accords, voilà, qui va se passer. Laval, il est là pour collaborer. Donc, il faut livrer 40 000 juifs. Son chef de la police, René Bousquet, trouve la solution. La solution consiste à faire cet arrangement. On vous donne le nombre de juifs que vous désirez. C'est ça, là, ce qui est dit par Bousquet. Le nombre de juifs que vous désirez, mais des juifs étrangers, apatrides. Le problème, c'est qu'il y a des enfants. Alors, en province, à Nancy, à Bordeaux, à Dijon, bon, il n'y a pas beaucoup de juifs en province. 150 000 juifs ont été recensés en 1940. À Paris, 20 000 en province. Donc, vous voyez, et en plus, en province, c'est surtout des communautés françaises. Donc, il y a peu de juifs étrangers en province. Donc, là, il n'y a pas de problème. On ne livre pas les enfants en province. Donc, vous voyez que, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne les arrêtera pas plus tard, qu'on ne va pas aller chercher dans des maisons, mais on ne les arrête pas. Parce que, mais à Paris, on en a beaucoup. Donc, la rave du Veldiv a été organisée, ce qu'il s'appelle la grande rave du Veldiv. 27 000 personnes qui sont recherchées, apatrides, polonais pour l'essentiel, mais ces gens ont des enfants. 10 000 enfants en plus, vous voyez, ça fait 37 000 personnes qui sont recherchées. On n'en arrête que 12 884, dont 4 000 enfants. C'est-à-dire qu'en gros, les deux tiers des gens y ont échappé. Les deux tiers des gens y ont échappé, et on a 4 000 enfants sur les bras. Donc, eh ben, on change de plan. Les enfants devaient être séparés, devaient être mis à l'assistance publique. Et Laval, qui a en plus une idée de propagande, on va essayer de faire croire à l'opinion publique que c'est de la transplantation, qu'on va créer des colonies. Et puis la préfecture de police de Paris qui se dit on va pas s'embêter, machin, il vaut mieux qu'on se débarrasse de ces juifs, qu'on les envoie ailleurs. Ben voilà, il les abandonne. Et il y a des petites exceptions parce qu'effectivement, dans une circulaire dont va bénéficier Jenny, les juifs de plus de 16 ans, enfin voilà, enfin qui sont français, peuvent prendre voilà des membres de leur famille arrêtables, enfin les enfants qui sont français. Mais tout ça pour dire que ce qu'on disait tout à l'heure, Patrick Boucheron, c'est que il y a toujours des choix qui sont voilà, on est en constamment Vichy sont face à des choix qui sont devant eux. Et là, on est face à une forme d'improvisation criminelle qui fait que, alors que les Allemands ne demandent pas les enfants, on va les livrer. C'est-à-dire que les enfants vont partir à Pithiviers, Bonnard-Hollande et de là être déportés, évidemment séparés de leurs parents, puisque les Allemands ne veulent pas des enfants tout de suite. Donc c'est ce drame absolu des séparations à Pithiviers, Bonnard-Hollande, des enfants qui vont partir à Drancy le 15 août. Enfin voilà, tout ça est connu, documenté. Mais parler de moindre mal avec une politique pareille, c'est vrai que ça paraît sidérant.
Et juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est connu, mais peut-être qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire que ces enfants qui ont été arrêtés alors que les nazis ne demandaient pas, pour le moment en tout cas, leur arrestation, ont été arrêtés par décision de Vichy. Et ensuite, ils ont été transférés dans ces camps d'internement où ils sont restés seuls, sans leurs parents qui, eux, ont été déportés tout de suite. Et ces enfants sont restés jusqu'au 13 août seuls. Et il y a des récits, soit d'adultes internés, soit d'infirmières de la Croix-Rouge, qui décrivent les situations mais épouvantables de dénuement, de désolation, de cas de démence infantile, hein, d'enfants livrés à eux-mêmes dans ces camps, avant d'être mis dans des trains avec d'autres adultes qu'ils ne connaissaient pas, direction les camps.
Et c'est
à cette hauteur-là qu'on écrit et qu'on raconte et qu'on comprend l'histoire et pas à celle des doctrinaires, comme vous les appelez Laurent Joly, avec Éric Zemmour. En tout cas, en 1942, 37 000 juifs sont déportés en France. C'est plus que la totalité des juifs déportés en Belgique et en Italie. Et en 1943, quand la France est un pays entièrement occupé, que Laval et Bousquet ne peuvent plus mettre toute la puissance de l'État français au service des opérations anti-juives, il y a 2 à 3 fois moins de déportés. C'est donc, Papendiaï, que au fond, en comparant à d'autres situations d'occupation, en faisant une histoire déconnectée, en faisant une histoire ouverte, on comprend mieux ce qui s'est passé.
Oui, c'est d'ailleurs un des arguments centraux de la falsification de l'histoire dont vous parlez, Laurent Joly. Cet argument s'appuie sur le fait qu'un pourcentage moindre de juifs de France a été persécuté, déporté et assassiné que en Hollande, en Belgique, et a fortiori du côté de la Pologne ou de la Lituanie. Et donc l'argument qui a été développé depuis la fin de la guerre consiste à expliquer que cela est dû, cette situation moins catastrophique qu'ailleurs, est due à l'action bienfaisante de Pétain et de ses affiliés. Et bien entendu que si en effet un pourcentage moindre de juifs a été déporté en France, en variant selon les époques, cela n'est pas dû au maréchal Pétain, mais à d'autres circonstances que vous détaillez dans votre ouvrage.
Oui, tout à fait. On est là relié à ce qu'on disait tout à l'heure sur qu'est-ce qui fait qu'on est dans un cadre de discussion scientifique ou pas. Bon, ben, toutes les interprétations ne sont pas recevables, ce qu'on disait tout à l'heure. Toutes les comparaisons ne sont pas bonnes. Et quand on dit ah ben regarde le pourcentage aux Pays-Bas est beaucoup plus élevé que le pourcentage en France,
oui, 74%, c'est-à-dire l'inverse d'en France.
Exactement, mais il faut voir que la situation n'a strictement rien à voir, c'est-à-dire qu'on a un pays, les Pays-Bas, qui est placé sous administration civile allemande, donc là le pouvoir nazi s'exerce sans aucune contrainte, on fait absolument pas attention à l'opinion, on la mate d'ailleurs. Les Pays-Bas, c'est l'un des seuls pays où on a manifesté pour défendre les Juifs. En février 41, et ça a été une manifestation qui a été réprimée extrêmement durement. Donc, ça n'a rien à voir avec la France. On a un ghetto de fait à Amsterdam. En France, les nazis n'ont pas été en mesure d'instituer ce qu'ils ont pu faire ailleurs en Europe. Parce qu'on est dans un État laïque. Les gens, quand les nazis arrivent, ils disent, bah, tiens, on va aller au consistoire. Bah oui, mais il n'y a que 7% des Juifs qui sont inscrits au consistoire. Il n'y a pas la mention de la religion dans l'État civil. Enfin, plein de choses comme ça qui font qu'ils sont désarmés et qu'en plus, on leur demande de faire à peu près attention à l'opinion publique. Donc, ce qui fait qu'en France, eh ben, les Juifs sont restés à leur même adresse qu'avant-guerre. On n'a pas pu créer de ghetto, même de fait. On n'a pas fait de quartier réservé, comme à Vienne, comme à Berlin, comme à Amsterdam. Donc, c'est tout ça qui explique que, dès la première grande opération qui a visé des femmes et des enfants, les 2/3 des gens arrivent à y échapper. Ça, c'est pas grâce à Vichy, puisque les instructions de Bousquet sont draconiennes. En revanche, à Amsterdam, dès la première grande opération, les 3/4 des Juifs sont pris. Vous voyez, on est là, en gros, déjà dans les bilans définitifs.
Est-ce que la ligne de départ, de démarcation joue un rôle également? Est-ce que la présence de pays, disons, neutres, ou en tout cas qui ne sont pas occupés directement par les nazis, comme la Suisse ou bien l'Espagne, joue un rôle également dans cette différence que l'on peut établir entre la situation française et la situation hollandaise, par exemple?
Absolument.
Laurent Joly.
Quand on est un juif hollandais, qu'est-ce qu'on peut faire pour fuir? C'est très difficile pour fuir, déjà. Rentrer dans la clandestinité aux Pays-Bas est quasiment impossible. En France, il y a le marché noir. Donc vous pouvez déjà, aux Pays-Bas, il n'y a quasiment pas de marché noir. Donc déjà, c'est difficile d'être clandestin. Et où vous allez? Vous pouvez peut-être aller en Belgique. C'est pas terrible. Quand vous êtes en Belgique, vous pouvez peut-être aller en France. Mais ensuite, où? En France, vous pouvez aller en Espagne, vous pouvez aller en Suisse. Vous avez la zone d'occupation italienne, qui à partir de novembre 42, c'est la zone d'occupation italienne est en elle-même plus grande déjà que le territoire des Pays-Bas, où les Italiens ne persécutent pas les Juifs. Donc vous avez en France des possibilités de sauvetage, je ne parle même pas des considérations géographiques, de l'immensité du territoire, qui est 10 fois plus grand que la Belgique, de presque 11 fois que les Pays-Bas, des montagnes, des forêts, enfin voilà les facteurs explicatifs.
Et puis, il y a aussi tous les réseaux de sauvetage. il y a aussi ces structures, ces associations, ces organisations, à commencer par l'organisation de secours aux enfants, certains réseaux de la résistance, et puis toutes ces micro-sauvetages individuels, pour en revenir à cette question de l'opinion publique que vous évoquiez dans la première partie de l'émission, où des individus vont sauver des enfants, cacher des enfants et contribuer ainsi à ce que le taux soit finalement beaucoup plus faible qu'ailleurs en Europe.
Oui, tout à fait. On ne va pas faire une histoire rose en disant que tous les Français, quand vous discutez avec Jenny Plocky, elle vous dira « bon ben voilà, c'était pas évident ». Mais on n'a pas été dénoncé, mais l'épicière nous a toujours fait crédit. À la mairie, on a obtenu une petite aide pour payer notre loyer. Voilà, donc il y a un environnement qui, grosso modo, a été relativement protecteur, au-delà même effectivement de réseaux de sauvetage plus étendus qu'ailleurs.
Laurent Joly, vous êtes d'abord un historien de l'antisémitisme, vous êtes penché sur les idées et les carrières de Xavier Vallat, de Darquier de Pellepoix. Je vous propose d'écouter un reportage de Radio Paris en 1942, on y entend André Chaumet, l'un des propagandistes les plus féroces de l'antisémitisme, qui publiait notamment une brochure intitulée « Je vous hais ». J'ai bien peur que ça se passe de commentaires.
Radio Paris, dans son souci d'objectivité, a demandé à l'un des plus qualifiés spécialistes de la question juive, Monsieur André Chaumet, vice-président de l'Association des journalistes anti-juifs, de bien vouloir exposer son point de vue. Et tout d'abord, pour bien situer la question juive dans toute son ampleur, je vais demander à Monsieur André Chaumet de nous citer quelques chiffres sur l'envahissement de la France par les fils d'Israël.
Eh bien, cher monsieur, cet envahissement de la France tient tout entier dans une phrase de Ferdinand Céline, « Un termite, toute la termitière, une punaise, tout le bois de lit. » En 1320, les Juifs étaient 120 à Paris. En 1789, ils étaient 45 000. En 1808, la France comptait 46 660 Juifs sur 28 millions d'habitants. Et en 1942, 1 200 000 Juifs pour 42 millions de Français. Si la colonisation juive se développe selon cette norme, on verra dans un siècle la France en pleine décroissance démographique compter 10 à 15 millions d'habitants juifs contre 20 à 25 millions d'authentiques Français. L'étoile jaune qu'arborent aujourd'hui les enfants d'Israël n'est donc ni une mesure de vexation, ni une mesure d'humiliation, mais bien plutôt un geste dicté par le souci de protéger nos vies, d'engager le pays sur la route de la révolution nationale.
Pour Zemmour, la réhabilitation de Vichy va au-delà de la thèse pétainiste classique du moindre mal. Vichy, dit-il, a appliqué la bonne politique, celle, justement, on l'a entendu, qui fait front au grand remplacement. On ne peut pas dire les choses autrement. Il aurait déclaré, Zemmour, d'après l'enquête de Étienne Girard que vous citez, « Si on n'arrive pas à déconstruire ça, ça c'est ce qu'il appelle la doxa, mais c'est ça, c'est ce que nous appelons le consensus des historiens, on n'arrivera à rien ». Donc c'est la dernière question que je voudrais vous poser, Laurent Joly. Pourquoi il fait ça? C'est quoi son objectif? Qu'est-ce qu'il veut déconstruire?
Alors, son objectif, d'abord, c'est un objectif de combat culturel. C'est-à-dire qu'il pense qu'il faut vraiment, sur tous les sujets, nous reformater idéologiquement. On est endoctriné, il y a une sorte d'idéologie qui nous culpabilise en plus, parce qu'elle nous mène à accepter, selon lui, une invasion, et considère que la droite est culpabilisée et que donc il faut déculpabiliser la droite pour qu'elle accepte, qu'elle s'allie d'abord avec l'extrême droite, voilà, qui est une alliance.
Et donc, la seule fois où la droite a gouverné en France
l'extrême droite, c'est Vichy. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est de réécrire l'histoire pour réunir les droites et puis surtout pour faire accepter à l'opinion publique le fait de mener des politiques liberticides. Je pense qu'il y a vraiment ça qui est derrière, de dire que finalement, si ce que Vichy a fait, c'est le moindre mal, ben après tout, aujourd'hui, il faut aussi sacrifier des étrangers pour sauver les Français.
Et qu'il est possible
de s'affranchir de l'état de droit.
J'avais commencé par l'une des premières planches de la balade nationale. Me permettez-vous d'évoquer la dernière? Le cercueil de Pétain reprend sa place dans le cimetière de l'île Dieu, car on ne manipule pas impunément l'histoire, je cite le livre d'Étienne Davodeau et de Sylvain Venère. On ne l'efface pas davantage, bien évidemment. Et je cite la dernière case, l'histoire demeure, comme un rappel désormais silencieux du cours que peut prendre l'histoire. Merci Laurent Joly, merci Manon Pignot, merci Pape Ndiaye.
Merci.
C'est
Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Florian Dorimini. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques, et elles sont nombreuses, sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous parlerons de la naissance de la Grèce moderne avec l'exposition Paris-Athènes qui a lieu au musée du Louvre et notre invitée sera l'historienne Anne Couder. Bon dimanche sur France Inter.